Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, ce texte que nous allons lire est un des textes qui a marqué ma vie. Lorsque j'étais au désespoir et au chômage, le Seigneur m'a amené à lire ce texte. Comme vous allez le voir, puisque je pensais que ma vie est finie comme ça, que je ne voyais pas de perspective pour mon avenir. Mais quand j'ai lu ce texte, et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que dans notre relation avec le Seigneur, la chose la plus importante, c'est de rester vivant. Que Satan ne te tue pas. Que tu ne meurs pas au nouvel an, n'est-ce pas? La chose la plus importante, c'est que tu restes vivant. La Bible nous dit que il y a plus d'espoir pour un chien vivant qu'un homme mort. Hein, Samuel? Chapitre 30, nous lisons. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau de masse de figues sèches et deux marcs de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu ? D'où es-tu ? Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons fait une invasion dans le midi de Kérétien, sur le territoire de Juda, au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide Et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il les délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disaient, c'est ici le butin de David. Amen. Dans la vie de David, il y a eu des moments très sombres où, comme homme, parfois il avait perdu son espoir. Malgré tout ce qu'il avait déjà fait, savoir qu'il avait tué le lion quand il était berger, il a tué l'ours, il a tué Goliath. Mais, vous savez, la vie d'un homme ne se limite pas à quelques expériences singulières que nous pouvons avoir dans la vie. Nous pouvons connaître un grand succès aujourd'hui, mais nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Nous pouvons avoir une grande victoire, réussir avec brio aux examens, trouver un bon travail, faire un mariage éclatant, célébrer des grandes conquêtes. Mais cela n'est pas la fin de la vie. Et justement, David, dans le parcours de sa vie, il a eu des problèmes avec le roi, nous le savons, le roi Saül, et il a fui le pays. Il est allé comme réfugié et il a trouvé asile chez les Philistins. Et le roi à Tsiklag, donc, et le roi Achish, le roi des Philistins, n'est-ce pas, était très accueillant envers David. Il a été très gentil et favorable envers lui, il a très bien gardé au point que lorsque les Philistins devaient aller livrer bataille en Israël, ils ont aussi aligné David et ses troupes. Il avait 600 hommes qui avaient fui avec lui. Nous connaissons l'histoire de ces 600 personnes qui avaient fui avec David. C'était tous les gens qui avaient des dettes, tous les gens qui avaient des problèmes, qui ne pouvaient pas trouver de solution autrement que de s'allier dans l'opposition et fuir avec David pour sauver leur vie et éviter d'être tués ou d'aller en prison. Donc, c'était pas, n'est-ce pas, les gens corrects, hein, comme vous, par exemple. Et donc, il a été aligné avec ses 600 hommes pour combattre contre Israël. Et puis, les princes des Philistins ont dit, mais ça c'est malin, ils sont venus dire au roi Achish. Mais c'est le David là, on disait de lui que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Mais c'est un brave, il ne faut pas l'amener parce que pendant la guerre, il va se tourner contre nous. Il va pas combattre de toute façon ses frères. Alors le roi Achish est venu gentiment avertir David que son contrat est terminé. Il doit déposer les armes et retourner à Tsiklag et les attendre là-bas. Donc, démobilisé avec ses 600 hommes, David est retourné à Tsiklag. En fait, que s'est-il passé? Trois jours venaient de se passer. Donc, le temps que David quitte le front et retourne à Tsiklag, trois journées s'étaient passées. Et pendant les trois jours avant, les Amalécites étaient venus à Tsiklag et ils ont fait des ravages. Et c'est là le texte que nous avons lu. L'histoire que je viens de vous raconter se trouve au chapitre 29. Au chapitre 30, David revient avec ses 600 hommes à Tsiklag pour se reposer. Verset 1, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag, ils les avaient détruits et brûlés Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Voilà donc ce que David a trouvé. Un état de destruction terrible. Il a trouvé Siklag brûlé, la cité qu'il avait accueillie, mais il a trouvé que toutes leurs familles ont été emmenées, emportées par les Amalécites. Les biens, tout, mais absolument tout, étaient partis. Donc, ils se sont retrouvés, comme on dit, en l'air. Je suis sûr que personne d'entre nous n'aimerait se trouver dans une telle situation. Où tu arrives et tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a même pas ta case. Il n'y a rien. Et pire, aucun membre de la famille, les enfants, les femmes, tout le monde était emmené. Alors, au verset 4, c'est ce que j'appelle le désespoir. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. J'aimerais bien voir une telle scène où David, ce vaillant, probablement assis par terre, les mains sur la tête, les pieds sans chaussures, en train de pleurer fort. Et ces 600 hommes, et je vous assure, quand les hommes pleurent à haute voix, c'est fort. Avec des voix basses. Donc c'était grave. Oh, 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 600 personnes. Et la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force. Ils ont commencé à se regarder, se voir comme ça. Mais il n'y avait pas que les pleurs. Le verset 6, première partie, nous dit qu'ils avaient aussi des angoisses et de l'amertume dans l'âme. Donc, c'est des situations qui nous laissent amers et angoissés. Je disais ce matin que dans les années 91, 92, j'ai passé une partie de mon temps ici à Bruxelles à prier avec les bien-aimés frères et sœurs qui venaient de Kinshasa, qui avaient tout perdu au pillage. C'est des hommes et des femmes qui avaient des affaires, qui ont prospéré, qui avaient de quoi manger, qui avaient des dépôts, des entrepôts, qui avaient des magasins. Et les pillards, je peux les appeler ces Amalécites-là, sont entrés dans ces magasins, les piller, les détruire, les démolir et même mettre le feu dans certains magasins et dépôts. J'ai eu l'occasion de passer du temps à parler avec ces frères-là et ces sœurs-là. Je vous assure que beaucoup étaient blessés et certains sont blessés jusqu'à ce jour. Vous savez qu'il y en a qui n'ont jamais pu se relever de ces destructions-là. Ils sont restés amers, angoissés. Quand les Amalécites passent là où se trouve ta vie, ils ne te feront jamais de cadeaux. Laissez-moi vous dire que l'invasion du diable dans la vie d'un homme et d'une femme ne peut jamais laisser de cadeaux, laissera des traces dures. Des couples ont vu le déchirement, n'est-ce pas? Les enfants ont pleuré, crié de voir papa partir ou maman partir et de voir ce partage. Nous assistons à ces scènes plusieurs fois. Quand Siglag entre, et plutôt Amalek, Satan entre dans un foyer, dans une maison, dans une entreprise, dans un pays, c'est horrible. Dans les années 95, fin 94-95, après les tristes événements du Rwanda, j'ai encore travaillé avec des hommes et des femmes, et même des enfants, qui avaient vécu ces événements de destruction, de démolition, où les gens étaient blessés, amers, meurtris, d'avoir assisté à l'assassinat, à l'extermination de toute leur famille. Une sœur m'a amené des enfants, des adolescents, qui n'osaient plus parler, juste parler. J'ai dû passer des heures pour amener ces jeunes gens à parler. Le traumatisme était tellement fort qu'ils ne pouvaient pas parler. Vous savez, quand de tels événements arrivent dans une famille, dans une vie, c'est horrible. Permettez-moi aussi d'évoquer le souvenir des événements qui se sont passés à l'est du Congo, où des gens ont vu leur propre famille démolie, déchirée. Dernièrement, j'étais au Burkina Faso, et là, nous avons aussi reçu le récit de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La haine entre peuples, c'est quelque chose, surtout des peuples frères, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. C'est diabolique. Les événements de la Côte d'Ivoire sont en train de déchirer ces deux pays qui sont unis par l'histoire et par la tradition. Ils ont le même style de vie, les Burkinabés et les Ivoiriens. Mais des choses horribles se passent là. Vous savez, si nous n'avons pas Dieu, eh bien, nous allons à une catastrophe qui va nous marquer toute notre vie. David est arrivé avec ces jeunes gens. Je vous assure qu'ils ont pleuré. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient pas de force. Mais j'aimerais dire aussi que quand des événements comme cela arrivent dans la vie, ou même des événements qui n'ont pas cette importance-là. En tout cas, lorsque tu es touché, il faut, parfois c'est mieux de pleurer. Et même de pleurer fort. Les psychologues disent que lorsque on extériorise sa souffrance ou ses douleurs, on est soulagé. Lorsque tu as des choses de ce genre, si tu peux, retire-toi quelque part seul et pleure le plus fort que tu peux. Laisse couler tout ce que tu peux couler comme larmes. Tu te soulages. Parce que sinon, tu vas attraper les ulcères d'estomac, l'hypertension et d'autres maladies psychosomatiques que seuls les médecins connaissent les noms, parce qu'il y a de ces maladies-là qui sont plus compliquées que les formules mathématiques. Mais voyez-vous, les pleurs, les cris, les douleurs, loin de Dieu, ne sont pas la solution définitive au problème. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions voir les étapes qui ont conduit David et son équipe à la restauration. Je disais, les pleurs, les cris, les douleurs, loin de Dieu, ne peuvent pas nous amener à la solution véritable de du drame que nous vivons. La première étape que David a faite, nous sommes au verset 6, il est dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Donc la première étape, c'est reprendre le courage et compter sur Dieu. Quand de tels événements arrivent, on se laisse faire, on se laisse aller, on ne sait pas se relever. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé une femme qui perd son mari et qui ne veut plus du tout entendre parler d'un mari. Et il y en a même qui sombrent dans l'alcoolisme, qui deviennent des ivrognes. Un homme qui a perdu ses affaires, qui pense qu'il ne peut plus se redresser, il se met à mendier. Il y en a même qui, dans le désespoir, ne veulent plus rien faire. J'ai rencontré quelqu'un. Et quelques temps plus tard, un de mes enfants était parti pour distribuer, voyez la Noël là, le resto du cœur avec son école. Et ils ont trouvé aussi une personne comme ça. Quand on lui distribuait à manger, il a dit, mon enfant était, je crois, la seule noire du groupe. Vous venez d'où? Elle a dit, je viens du Congo. Et cet homme lui a dit ce qu'il était au Congo. Mais quand on avait expulsé les étrangers, il a tout perdu au Congo. Et là, il était dans la bouche d'un métro. Et il a commencé à vivre de la mendicité, n'est-ce pas? Il est devenu sans abri. Des situations comme celle-là peuvent laisser des séquelles telles qu'on a difficile à se relever. C'est pour ça que je parle de cette première étape de reprendre le courage. C'est-à-dire reprendre sa vie en main. Il y a quelque chose qui est bien dit ici, au verset 2. Il n'avait tué personne. Alléluia. C'est pourquoi je disais, il vaut mieux être vivant que de mourir. Il ne faut pas dire, il vaut mieux que je meure alors. Non. Moi, je te dis, il vaut mieux rester vivant que de mourir. Tu n'as pas besoin de réclamer la mort, tu n'as pas besoin de demander la mort, tu n'as pas besoin de souhaiter la mort, tu n'as pas besoin d'espérer la mort. Si tu es vivant, c'est une bonne chose, c'est la meilleure chose. Mais reprends courage, reprends ta vie entre tes deux mains. Tout n'est pas perdu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu es vivant, c'est l'essentiel. Tu es veuve. Tu es veuve. Tu as perdu tout ce que tu avais. Il y en a même qui, après avoir perdu les enfants, ils n'ont plus envie de vivre. Mais je vous dis, le fait que vous vivez, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Quand David est arrivé, il s'est renseigné qu'il n'avait tué personne. Alors, au lieu de continuer à pleurer, à crier, à se jeter par terre, il a repris courage. Appuyer sur le Seigneur. Première étape, reprendre le courage en s'appuyant sur le Seigneur. Non pas sur les organisations des hommes. Non pas s'appuyant sur qui que ce soit, mais sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur un homme. Appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur les organisations des hommes. Appuie-toi sur Dieu, ne t'appuie pas sur les promesses qu'on te fait par qui que ce soit. J'aimerais te dire que Dieu fera de toi quelqu'un qui réussira tôt ou tard dans ta vie. Alléluia. Il effacera les blessures. La deuxième chose, recevoir la parole prophétique. Recevoir la parole prophétique. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui se lamentent et qui perdent courage. Mais ceux qui pleurent devant Dieu, ils devront attendre le secours qui vient de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le verset 7. Heureux les affligés. Car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. L'erreur de beaucoup d'entre nous, c'est que nous aimons pleurer, nous affliger, garder l'amertume, mais en dehors de Dieu, loin de Dieu. Non, David, ils ont pleuré. Et ils se sont rendus compte que, en pleurant, à un moment donné, ils n'avaient plus de force. Ils ont commencé à se regarder. Plus personne pour pleurer. Mais le problème était là. L'amertume était là. L'angoisse était là. La douleur était là. Et c'est là que David a repris courage. Il a dit, frère, il y a Dieu. Nous allons courir maintenant vers Dieu. Et ils se sont rendus compte qu'avec eux, ils avaient un sacrificateur qui s'appelait Abiathar. Vous savez, quand les choses arrivent, la première chose, on ne pense pas à Dieu. On se jette d'abord dans son problème. On se confond dans son problème. On parfois dit des paroles bizarres. Mais nous devons, quand nous reprenons le courage, réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous avons un Dieu qui est avec nous, qui marche avec nous, Il a dit, où est Abiathar? Cherchez-moi Abiathar. Abiathar est arrivé et c'est là que David a fait l'étape la plus importante. Il dit, donne-moi les fautes. C'est-à-dire, prions. Invoquons le Seigneur, Abiathar. Aide-nous à prier, aide-nous à chercher la face de Dieu, aide-nous à savoir quelle est la pensée, quelle est la parole de Dieu sur cette affaire. Nous faisons quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Frères et sœurs, c'est ça, le sens profond de la prière. La prière n'est pas des paroles que nous jetons en l'air. La prière, c'est pas des cris et des parler en langue qu'on ne comprend pas. La prière est une autre expression de notre douleur envers Dieu. Et nous attendons que Dieu nous dise ce qu'il va faire de nous. Seigneur, je suis dans cette histoire. Je fais quoi? Je vais où? Qu'est-ce que je deviens? Seigneur, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Dans la prière, Dieu nous donne toujours une parole prophétique. La parole prophétique a pour but de nous encourager, de nous exhorter, de nous pousser de l'avant, de nous dire, attention, tournez à gauche, allez à droite, allez devant, reculez en arrière, ne vous découragez pas, parce qu'il y a toujours une solution avec Dieu. Quand j'ai lu cette histoire la troisième année de mon chômage. J'étais seul à Kinshasa. Ma famille était restée à Lubumbashi. 2000 kilomètres, puis j'étais là, malheureux, misérable. Oh, je m'étais déjà lamenté les années avant. J'avais perdu tout espoir. Dans ce pays-là, quand on est au chômage, on est au chômage. On est démuni, on n'a rien, on n'a pas d'amis. Hein. Et puis je suis tombé sur cette histoire-là. Et j'ai dit, ah, il y a une solution. La solution, c'est aller à Dieu. C'est à ce moment-là que j'avais commencé une vie intense de jeûne et prière. Vous savez, on ne prie pas comme ça. Il faut prier avec un but. Pour dire à Dieu, je fais quoi dans cette ville et dans cette vie? J'ai étudié donc pour rien. Parce qu'il n'y a pas de place pour moi dans cette société congolaise. Est-ce que je dois aller à l'étranger? Et aller où? Et je me rappelle, à cette époque, un ami à moi, burkinabé, m'a écrit. Oh, je suis nommé un tel, je suis en Afrique de l'Est, et on m'a demandé d'organiser l'Afrique centrale. Je voudrais te nommer pour que tu supervises toute l'Afrique centrale. Oh, mais j'étais heureux. Je lui ai vite répondu. Quand il a lu ma lettre, il m'a répondu, il dit, ah, je pensais que tu étais comme je t'avais connu, seul. En ce moment-là, j'avais déjà 5 enfants. Il m'a dit, tu es marié avec 5 enfants, c'est lourd. Je crois que l'entreprise n'acceptera pas de te prendre. Merci beaucoup. Quand tu as 3 ans de chômage, et un ami t'envoie une telle réponse, alors c'est fini. Si même les chrétiens ne... Et puis c'était une organisation chrétienne. Si même les chrétiens ne veulent pas de moi, alors qui va vouloir de moi? Et c'est là que j'ai cherché Abiathar. Abiathar.
Trouve les fautes! Nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'on fait. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une parole prophétique. Nous avons besoin que Dieu nous parle.
Alors, le problème, c'est celui-ci. Comment Dieu va-t-il nous parler? Est-ce que nous devons aller dans une maison de quelqu'un qui s'appelle prophète, nous asseoir et qu'il commence à dire, ainsi parle le Seigneur? Est-ce que nous avons besoin de venir à l'église, que quelqu'un tombe en transe, s'agite, et puis commence à nous dire des choses que nous devons faire? Non, frères et sœurs. Nous ne sommes plus autant des oracles où on devait aller faire des voyages pour aller consulter un prophète. Car à l'époque, il n'y avait qu'un seul prophète par saison en Israël. Mais maintenant, il est écrit quand Jésus nous a sauvés, tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes donc des sacrificateurs. Et quelle est la particularité du sacrificateur? Le sacrificateur était celui qui avait accès au lieu saint où il y avait les lampes dans le tabernacle. Et ces lampes symbolisaient la présence du Saint-Esprit. Le sacrificateur, c'est la seule personne, le peuple restait dehors, le sacrificateur avait accès à la lampe, à la lumière, au Saint-Esprit de Dieu. Si nous sommes des sacrificateurs, nous avons accès au Saint-Esprit de Dieu. Et qui donne la prophétie si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu? C'est pour cette raison l'apôtre Paul dit, je désire que tous vous parliez en langue, mais plus que vous prophétisiez. C'est-à-dire que la prophétie est une capacité accessible à chaque enfant de Dieu. Alléluia. Donc, je peux recevoir cette parole prophétique. Premièrement, je peux recevoir cette parole prophétique à partir du dépôt qui est en moi. Quand je médite la parole de Dieu tous les jours, quand je lis la Bible tous les jours, quand j'écoute les versets bibliques tous les jours, je constitue en moi un dépôt. Ce dépôt-là, c'est ça que l'apôtre Paul appelle l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce que le Saint-Esprit va prendre et te donner au moment du combat spirituel. C'est-à-dire, pendant que je prie, pendant que je suis devant le Seigneur, pendant que je fais moi-même le Abiatar, le sacrificateur, ma mémoire voit surgir un verset biblique, un passage, un mot, un chant, une parole de Dieu sur la situation. Hier, nous avons vu, pour ceux qui étaient à la prière, combien il est important de matérialiser le souvenir des moments forts avec Dieu. N'est-ce pas? Quand Israël a traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué, tu vas prendre 12 hommes. Chacun va prendre une pierre de là où les sacrificateurs avaient mis leurs pieds. C'est des pierres lourdes. Mais nous cherchons des braves, des forts. N'est-ce pas? Et chacun va porter une pierre de ce lieu-là. Et ils vont traverser avec la pierre jusqu'à ce qu'ils vont arriver à Gilgal. Et là, à Gilgal, nous allons bâtir un souvenir de ce que vous avez vécu comme puissance et miracle de Dieu dans le Jourdain. Et nous avons conclu que nous devons apprendre à matérialiser, à marquer d'un souvenir les temps forts avec Dieu. Voici, tu es en train de prier. Un verset fort te traverse. Par exemple, à cette époque-là, justement, j'étais en train de prier, j'invoquais le Seigneur, je fais quoi? Et je sens un verset qui me traverse l'esprit très fort. Voici ce que disaient les versets. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Et tout à coup, une lumière apparaît dans mon esprit que cet acte-là me condamnait au chômage, à la misère et à l'errance que j'étais en train de suivre. Jésus l'a effacé et l'a éliminé. En d'autres termes, je ne suis plus sous la condamnation au chômage. Vous savez quoi? Non seulement j'ai écrit le verset, je me suis levé, j'ai levé mes mains et j'ai commencé à sauter et danser dans ma chambre où j'étais seul pour dire le chômage est terminé. Le chômage est terminé. Dieu m'a parlé. J'ai écrit à ma femme à Lubumbashi. Il dit le chômage est terminé. Je n'avais pas de promesse de travail. Je n'avais rien comme travail. Je n'avais rien, absolument rien. Mais je savais que ce jour-là, j'ai reçu la prophétie de Dieu, la parole de Dieu qui me confirmait que c'est terminé. Et pourquoi David a demandé qu'on cherche Abiatar. Et Abiatar est venu avec les fautes, et il a consulté Dieu. Il est temps qu'on arrête de pleurer, de se lamenter, de s'inquiéter pour ce qui s'est passé. Écoutez, ce qui s'est passé, on ne peut plus les changer. Vous avez perdu quelqu'un de votre famille, il ne reviendra plus. C'est vrai. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous avez perdu votre emploi. Peut-être que cette société ne reviendra plus jamais. Peut-être qu'on ne vous prendra plus jamais dans cette entreprise-là. Mets la croix dessus. Votre société a fait faillite. Eh bien, c'est fini. Mets la croix dessus. Qu'est-ce que tu as perdu? Mais il y a une espérance parce que tu es vivant. Il y a encore à espérer. Il y a encore à espérer. Tu peux te redresser, rechercher Dieu, avoir le courage comme David et chercher la prophétie de Dieu. Dieu a certainement une parole pour toi. Dieu va te dire quelque chose. Ne continue pas à toujours regretter le passé. Le passé est passé. Vous savez, j'étais parti au deuil de mon grand frère. Après, quand nous avons fini le deuil, ses 10 enfants sont venus autour de moi, ils se sont jetés par terre. Oh papa, qu'est-ce que nous allons devenir? Oh papa, hey! Ils me parlaient à moi. Et ils ont vu que j'étais calme, insensible. J'avais des douleurs dans mon cœur. Ce frère-là, c'était mon père. C'est lui qui m'a élevé, il a fait beaucoup de sacrifices pour moi. C'est lui qui m'a amené à Lubumbashi. Comme vous savez, moi je suis du village. Vraiment, village profond. Hutte, rivière, puits, pieds nus, tout ce que vous pouvez concevoir là, je l'ai été. Je crois que j'ai mis les chaussures, je crois, en 4e, 5e primaire. Hein. Donc, j'ai passé. C'est pour ça quand on fait pédicure là, quand on essaye mes pieds, c'est dur. Hein. Alors, je leur dis toujours attention, jusqu'en 5e primaire, j'ai marché pieds nus au village, alors ça durcit. Alors c'est pour ça que mes coups de pied au karaté étaient très porteurs. Hein. Donc, j'étais touché par la mort de mon frère. Mais voici ce que j'avais appris dans la vie. Je ne dois pas trop m'attarder sur le passé. Alors, je les ai arrêtés. Je dis, écoutez, vous parlez comme ça pour que j'aie pitié de vous. Alors, vous êtes mal tombés. Je dis, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. J'ai grandi sans mon père. Ma mère n'était pas là. Mais j'avais un jour dans ma vie compris qu'avec ou sans mon père, I have to make it. Je dois réussir ma vie. Donc, si je suis ce que je suis, c'est pas mon père qui a fait ça. C'est moi. Moi-même. Alors, vous aussi, vous devez maintenant apprendre à oublier votre père. Et vous levez. Je vais vous aider pendant un temps. Après, je vous aiderai plus. C'est comme ça, quand je tiens des réunions de famille, je suis direct comme ça. Parce que maintenant, là, j'ai arrêté. Hein, parce que c'était en 89. 99, ça faisait 10 ans, c'est assez. Parce que celui qui avait 10 ans, il a 19 ans. Donc, nous devons apprendre à arrêter le passé. À regretter toujours le passé. Et c'est pour ça que nous organisons ce genre de prières, frères et sœurs. Ce n'est pas pour être pieux. Nous pouvons être pieux autrement. Nous organisons ce genre de prières pour que nous venions consulter Abiathar et chercher la parole de Dieu pour que le passé reste dans le passé et que nous ayons une parole pour les jours qui vont venir. Tu es vivant, le passé ne doit pas continuer à t'influencer jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que tu devais oublier depuis toujours. Tu devais déjà être loin. Tu devais... J'étais avec un ami toujours. Nous étions dans les affaires. Écoutez... Tu étais ministre il y a combien d'années? Forget it! Oh, vous savez, mon mari, nous étions des hommes, nous, hein. Oui, tu étais des hommes, mais tu n'es, c'est-à-dire que tu n'es plus. Tu l'es toujours, mais Dieu veut que tu ailles ailleurs. Que tu fasses d'autres progrès. Que tu poses une étape pour le futur. Ce que tu étais, je, merci, félicitations, mais on n'a que faire de ça. Et Abiathar a dit, tu poursuis ces gens-là. Hein, vous savez, quand il a eu la parole du Seigneur, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il s'est levé
de la douleur, du cri, on ne voit plus que David a fait couler encore une goutte de larmes. Ni aucun. Il a dit à ses hommes, maintenant nous avons pleuré, c'est assez. Nous partons pour suivre les Amalécites. La prière doit être pour nous le seul lieu où nous poursuivons Satan, le ravisseur. Quand nous venons ici, c'est du marathon. C'est pour ça que je laisse les gens prier pendant une heure, deux heures. Et ensemble, nous prions pour quelques minutes. Tu dois faire ton marathon. Tu dois poursuivre ton Amalek. Tu dois l'attraper quelque part. Celui qui a volé ton bonheur. Celui qui a volé ta famille. Celui qui a volé ta position, ton titre. Celui qui a volé ton mariage. Celui qui a volé ta santé, celui qui a volé tout ce que tu devais être, tu dois le poursuivre jusqu'à ce que tu l'attrapes. Et c'est pour ça que nous organisons ce marathon de un mois. Parce que venir prier un jour, je disais au pasteur au Burkina Faso, je dis, vous savez, à l'église, nous sommes ridicules. Dans chaque église, on dit, tu vois sur les horaires là, prière vendredi soir. On vient vendredi soir, on passe une heure à chanter, 40 ou 50 minutes de prédication, 15 minutes de prière. Qui ont des sujets? Moi, on prend et puis on dit prions pour les sujets. Parfois on les expose devant, parfois on les passe sur les papiers. 5 minutes. Et puis on a fini la réunion de prière. Il dit, mais nous sommes des rigolos. Hein? Et avec 5 minutes de prière, tu vas attraper Amalek et l'abattre. 5 minutes. C'est pourquoi nous faisons des marathons comme ça. Nous avons commencé le premier, le deux. Si nous l'attrapons le trois, nous le traitons bien jusqu'au 31. Parce qu'il a des comptes à nous rendre. Alléluia! Recevoir la parole prophétique quand un verset te traverse. Recevoir la parole prophétique simplement quand tu médites la Bible. C'est pourquoi pour ceux qui étaient là, et je vous annonce, le contrat que nous avons pris ensemble, c'est que ceux qui ne sont pas abonnés au lecteur, le dernier jour c'est quand? Aujourd'hui, après le culte ici, vous allez tout droit là-bas et vous prenez votre lecteur. Pourquoi? Comment tu vas recevoir la parole prophétique si tu ne médites pas chaque jour la parole? Parce que chaque jour que tu passes sans méditer la parole, il est fort possible que tu as passé 2, 3, 4, 5 paroles prophétiques d'aujourd'hui qui peuvent aider à changer le cours de ta vie. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup pour changer le cours de sa vie. On a besoin d'une seule parole. Si notre vie continue le même train, c'est qu'il y a un problème. Nous recevons la parole prophétique quand nous méditons, pendant que nous méditons la parole. Dieu peut nous parler. Et alors, prends ton stylo, note à côté. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous avons des grosses Bibles. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai une grosse Bible. J'ai beaucoup de Bibles, j'ai des toutes petites Bibles. Mais ma grosse ici, je vais vous montrer. Vous voyez même les marges en bas. Et là. C'est-à-dire que si ce verset me parle, j'écris là. La date. C'est ce que ça m'a dit. S'il n'y a plus de place, je descends. Pourquoi? Parce que, bon, je prends note dans mon cahier, mais je ne prends note, il y a des moments où je ne peux pas prendre note dans mon cahier. Vous voyez, par exemple, là, j'ai écrit. Là-bas. Parfois, c'est toute une prédication. Donc, quand j'arrive quelque part, on me dit, prêche. J'ouvre ma Bible rapidement. Où Dieu m'a parlé? Ah oui. Voyez, par exemple, Luc chapitre 12, versets 35 à 48, j'ai marqué leadership. Et point numéro 1. Point numéro 2, ça là. Donc, c'est la parole prophétique. Je note, je marque, parce que elle va me servir un jour. On peut recevoir la parole prophétique, troisièmement, lorsque on écoute la prédication de l'évangile dans une église pendant que nous sommes rassemblés. Dieu peut te parler pendant que je parle ici. Mais ne dis pas, je vais me rappeler de ça. Non, écris ça quelque part. Écris la date et l'heure. Écris même mon nom. Vous avez l'autorisation. Je sais que c'est copyright.
n'est-ce pas? Mais vous avez l'autorisation de l'auteur. Alléluia! La parole. Alors, quand ils ont entendu la parole prophétique, qu'est-ce que la parole disait? Lève-toi, David, poursuis ces gens, tu vas les atteindre. Et David a dit à ses hommes, nous allons. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est rencontrer la providence de Dieu. Donc, reprendre courage, recevoir la parole prophétique, rencontrer la providence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent et ils trouvent un jeune homme que les Amalécites ont laissé, fatigué, malade. Mais il y a un homme ici, on lui donne à manger, on lui donne à boire, on lui donne des raisins, on lui donne tout ce pour le fortifier. Il avait fait 3 jours sans manger ni boire, on l'avait abandonné parce qu'il était malade. Ah, dès qu'il s'est rassasié, qu'il s'est assis, David a dit, tu es d'où? Oh, je suis égyptien, mais j'ai travaillé avec les Amalécites. Voilà. Voilà l'homme que j'ai cherché. Ils sont où? Parce que je cherche ces gens-là. Ouais, mais jure que tu ne vas pas me tuer. Non, non, je ne te tue pas. Il a juré. Et il est parti avec eux. Mais disons entre parenthèses, cet homme-là, c'est comme ça quand on sert le diable, on reçoit comme récompense. Satan a besoin de nous seulement quand nous pouvons être quelqu'un pour lui. Quand tu es jeune fille jolie, tout ça, Satan a besoin de toi. Mais quand tu vas vieillir, tu grossis, tu changes de forme, il n'a plus besoin de toi. C'est vrai, hein? Et mais c'est ça que nous ne comprenons pas. Satan a besoin de toi seulement quand il peut t'utiliser. Mais quand il n'a plus besoin de toi, il te jette. Il te lâche. La seule personne qui aura besoin de toi toujours, c'est Dieu. Même quand tu seras vieux, Dieu voudra toujours de toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Mais Satan est un menteur. Et c'est comme ça que ce jeune homme, les Amalécites l'ont laissé parce qu'il était malade. On n'a pas besoin des malades. Mais Dieu cherche les malades. Qu'est-ce qu'il fait des malades? Il est guéri. Alléluia. Quand tu es malade, Dieu ne te rejette pas, il te guérit. C'est pourquoi je dois m'engager à servir Dieu dans ma jeunesse et dans ma force. Parce que je sais que le service de Dieu est payant maintenant et jusqu'à ma mort. Et quand je meurs, il vient m'accueillir à la tombe et m'amène auprès de lui dans son royaume. Et il préparera pour moi le futur pour la résurrection des morts, pour que je règne avec lui pour les siècles des siècles. Jamais il me délaissera, jamais il m'abandonnera. Alors, Seigneur, je te sers, je te servirai, je resterai attaché à toi. Ça vaut la peine de servir un tel Dieu. David a rencontré la providence de Dieu. Nous avons vu pendant la prière, au sujet de Rahab, n'est-ce pas, que elle a appris à s'attacher aux hommes qui ont un avenir prometteur. Ne t'attache pas à n'importe qui. Il y a des gens qui viennent perdre ton temps. Quelqu'un qui n'a rien, il n'a rien, il va t'amener où? Il va perdre ton temps, il vient te raconter des histoires, il n'a rien, il n'a rien. Tu te détaches de tels gens. Il faut t'attacher aux gens qui ont un avenir prometteur. Un avenir prometteur. Il peut ne pas avoir rien maintenant, mais son avenir est prometteur. Alors attache-toi à ces gens-là. Ça, c'est la providence. Nous avons dit que dans notre parcours, Dieu nous fait rencontrer de tels gens qui peuvent nous amener plus loin que là où nous sommes maintenant. Et David, dans la providence, a rencontré ce jeune homme-là. Regardez bien. Il a trouvé malade, fatigué, affamé. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a récupéré, il a nourri, il lui a donné à boire, il lui a donné même des vitamines. Vous voyez, les raisins qui ont une grande concentration en quoi la glucose, saccharose. Ce sont des sucres qui sont des tonifiants, fortifiants. Vous voyez, il y a des gens dont tu as besoin. Peut-être ce qu'ils présentent maintenant là, c'est rien. Il suffit que tu le soignes un peu. C'est comme il y a des gens qui ne veulent pas de certains hommes. On dit, non, 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 il présente mal. Attention. Si tu prends cet homme-là, tu le fais bien raser, tu le fais habiller correctement, peut-être qu'il a l'avenir prometteur. Faut pas regarder comme ça, dit, non, non, il est sale. Attention, habille-le, tu vas voir. Tu t'assures qu'il va chez le bon coiffeur là. La providence de Dieu. Nous devons compter sur cette providence. Pendant que nous prions, demandons à Dieu de mettre sur notre route des gens qui vont nous amener à la victoire. Ne prions pas comme ça. Dieu utilise toujours les hommes pour faire du bien aux autres. Nous avons besoin de rencontrer la providence de Dieu. Même si ces gens-là ne sont pas ce que nous aurions, ce que nous aurions aimé, croiser un ministre, peut-être la personne qui est là, dans ses connexions lointaines, il connaît des noms terribles. Alors par lui, on y arrive. La providence. La quatrième chose, la persévérance, la ténacité dans le combat. Nous sommes au verset 17. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Voici le temps que David a mis pour battre. Et c'est pour ça que nous voulons résister dans la prière. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. David a commencé à battre les Amalécites le matin, à l'aube, très tôt matin. D'abord, j'aimerais que vous compreniez qu'il n'a pas laissé attendre trop longtemps. Il allait vite, 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 parce qu'il y a des gens qui attendent trop, vous allez trouver c'est trop tard. Peut-être que l'âge que vous avez maintenant, c'est l'âge d'entreprendre ce que vous devez entreprendre. Ne te réveille pas pour dire, ah, maintenant j'ai 60 ans, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu es arrivé en Belgique, tu avais quel âge? Pourquoi tu as laissé passer toutes ces années passées comme ça? Mais c'est pas tard, hein. Même à l'âge que tu as, c'est maintenant, réveille-toi, fais quelque chose. David est parti. Il a commencé à les battre sans perdre le temps depuis l'aube, c'est-à-dire très tôt matin. Il les a battus toute la journée jusqu'au soir. Quand la nuit est arrivée, il n'a pas voulu se donner du repos. Il les a battus toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Mais le matin, comme il n'avait pas fini de les battre tous, il a continué jusqu'au soir et il n'a laissé échapper personne. La ténacité et la persévérance. Voyez, quand nous prions Dieu, c'est pas une histoire de 5 minutes, de 1 jour. Non! Quand on apprend de telles choses, de tels secrets, on ne va pas reculer. Vous savez, les gens vont vous dire, oui, vous exagérez avec vos prières là. Ah! Comme une sœur là. Elle se réveille à 4 heures du matin. Voici des gens, je suppose des ivrognes qui avaient bu toute la nuit et qui étaient là en train de causer avec son mari. Hey, madame, vous allez où? Elle dit, nous allons battre Amalek à l'église. Elle dit, même faux. Mais vous allez réveiller Dieu dort encore? Laissez quand même Dieu dormir un peu. Vous allez à 4 heures du matin, vous allez battre Amalek. Les gens vont vous dire, vous exagérez avec vos prières là. Mais pourquoi vous devez y aller tous les soirs? Mais moi, je suis protestant comme vous. Mais nous allons dimanche à l'église. Mais vous exagérez. Et votre pasteur là. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte comme ça? Non, la prière, c'est pas comme ça. Faut t'occuper aussi de la maison. Écoutez, ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. C'est pendant un mois. Et nous avons un but. Et nous avons un objectif que nous poursuivons. Si vous savez où vous allez, qu'est-ce que vous poursuivez, vous n'allez pas écouter de telles paroles et obéir. Moi, je ne comprends pas ces chrétiens-là qui se laissent décourager par le premier chant d'oiseau. Tu vois quelqu'un qui dit, ah, vraiment, toi, tu exagères. Hein? Maintenant, même, tu ne t'occupes même plus de ton mari, madame. Non, j'explique bien à mon mari. Je lui dis, écoute bien mon mari. Je t'aime beaucoup, C'est pourquoi j'ai accepté que tu m'épouses. Mais là, nous avons un problème sérieux. Et nous avons besoin de la solution de ce problème. Tu me laisses un mois, tous les soirs. Je te promets, à la fin de ce mois, il y aura la solution. Mais si c'est un homme sensé, il va te laisser. Mais quand il pense que c'est juste pour aller chanter, danser, etc., il va pas te laisser. C'est parce que nous avons pris la prière dans le sens trop spirituel et ça devient quelque chose de personne ne comprend jamais rien. Oui, on va prier, on va prier, on arrive là, et puis on rentre sans objectif et sans but. David s'est mis à les battre. Moi, j'aime des types comme ça, depuis le matin jusqu'au soir. Il arrive le soir, il se rend compte qu'il n'a pas fini. Il a continué jusqu'au matin. Et le matin, il s'est rendu compte que c'est pas terminé jusqu'au dernier. Regardez le verset 18, verset 19. Oui. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Au verset 18. Tout ce que les Amalécites avaient pris, David les sauva. Pourquoi? Persévérance. Écoutez, il y a la part de Dieu, il y a notre part. Dieu lui a donné la parole. Dieu lui a fait rencontrer cet Égyptien qui va le servir de guide pour l'amener dans la cachette. Après cela, c'est David qui doit faire sa part. Il doit se battre. Il doit se battre pendant 2 jours. Ta part, tu dois le faire. Dieu ne fera pas ta part. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens défaitistes, parce qu'ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Non, non. David l'a fait, il a sauvé tout. Et même il a aussi délivré ses 2 femmes. Ah, gloire à Dieu. Oui, parce que le dimanche passé, oh là là, on nous a dit des choses. Hein. Bon, je ne veux pas créer des polémiques. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand. Écoutez, tu pries pour ta famille. Arrache chaque enfant. Et arrête seulement quand tu as arraché tous les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui manque à l'appel. Tu pries pour quoi? Pour que tu réussisses tes études. Mais chaque année doit être une année de réussite. Il ne manqua rien, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Quand je vous disais là, au chômage, j'ai lu ce texte, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, merci Seigneur, je suis vivant. Satan, tu as menti. Les années que tu m'as volées là, je vais les récupérer toutes. Et ce que tu m'as volé là, comme je pensais déjà que j'allais avoir ma voiture juste après mes études. Et que je ne l'avais pas, ça faisait 3 ans que je n'ai pas de voiture. Attends, tu vas la ramener le plus rapidement possible chez moi. J'ai compris. Tout, tu vas me les donner. Et je vous assure, on ne lui fait pas de cadeaux. Non. Et j'ai compris que l'essentiel, c'est de vivre. Ce que tu as perdu, tu peux tout retrouver. J'étais un homme d'affaires, une femme d'affaires. Pendant ce mois, arrache ça. Satan n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit. La chose pour laquelle tu as souffert, tu as peiné. Vous avez perdu vos parents. Eh bien, demandez à Dieu d'abord de vous guérir et de vous donner des projections. Bien sûr, on ne peut pas fabriquer des parents. Non, mais Dieu va vous donner aussi d'autres parents, d'autres personnes qui seront pour vous comme des pères, comme des mères. Il va vous donner des gens qui seront pour vous comme des frères, comme des sœurs. Dieu peut restaurer ta vie jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas de séquelles de ce que le passé a voulu marquer dans ta vie. Si tu as raté ta vie de ménage, ma jeune fille, ma jeune dame,
mon jeune garçon, mon jeune monsieur, Dieu va te donner, écoute mon frère, va te donner une jolie femme, une toute belle, hein, qui n'a rien à voir avec l'autre. L'autre te complique la vie. D'abord, c'est pour cette raison qu'elle est partie. Mais celle-là, elle restera. Et c'est pourquoi il faut prier. Tu as perdu un mari, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans ce combat ici, tu vas dire, d'ailleurs, celui qui est parti là, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien de bon. Mais je vais avoir un autre. David ramena tout. Et vous savez comment on appelait le butin là? Le but, c'est ici le butin de David. Le butin de David. Alléluia! 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 Ce n'est plus le butin des autres, mais de David. Parce que c'est lui qui s'est battu pour arracher ce butin-là. Le butin que tu vas faire portera ton nom. Peut-être que là, tu travaillais au nom de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce magasin-là, tu étais associé avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas, c'était 50% toi, 50% l'autre. Ou bien toi, c'était juste 25%. Mais maintenant, ça sera à toi. Ce sera ton butin. Cet homme-là, peut-être que tu l'as partagé avec d'autres. Mais celui-ci, il sera à... Mais il dit avec conviction. À toi, la femme qui est partie là, qu'elle parte. Qu'elle parte. Maintenant, ce sera la femme de toi. Le butin de David. C'est le butin de David. Alléluia. Ah, peut-être la maison, j'étais un locataire. Maintenant, tu auras ta maison à toi. Ça sera ton butin. Le butin de David. Le butin de David. Le butin. Alors, tu mets ton nom. Tu mets ton nom là-bas. Dans la Bible, hein, tu prends un crayon, tu effaces légèrement David, hein, et tu mets ton nom, le butin, le butin, le butin, mon butin à moi, c'est ton butin, c'est ton butin, et Dieu va t'amener. Vous comprenez? C'est pourquoi ça vaut mieux de vivre. Ça vaut mieux de vivre. Tant que tu es vivant, le passé ne doit plus t'influencer.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.